Europe 1 Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Les débats de Panorama jusqu'à 19h sur Europe 1. Et si se profilait lentement une guerre de religion? Mais oui, puisque jamais au cours d'une semaine, qui en plus marquait en l'occurrence la fin du Ramadan, n'avait plus mis en exergue la religion dans les violences qu'on a vues, qu'on a entendues, qu'on a relatées ici même sur Europe 1. À Bordeaux, ce jeune Afghan qui tue des Algériens parce qu'ils boivent de l'alcool. À Montpellier, la petite Samara, 13 ans, tabassée parce qu'elle s'habillait à l'européenne et qu'elle ne voulait pas justement mettre détenue musulmane. À Viry-Châtillon, Chamseddine tabassé jusqu'à la mort parce qu'il était amoureux d'une fille d'un autre groupe identitaire. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est lentement un retour des guerres de religion? Il n'y a pas besoin de poser des bombes ni d'utiliser des kalachnikovs. Cette guerre se fait silencieuse, à coups de lames, de barres de fer, de poings, des corps qui sont abandonnés comme ça dans des ruelles qu'on retrouve ensuite. Nos invités ce soir, le théologien et philosophe Philippe Capel-Dumont, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Bonsoir également à mon confrère et essayiste Mohamed Sifaoui. Bonsoir. Tous les deux, vous avez en commun le fait de combattre l'islamisme radical, cette chose que Georges Bensoussan avait à l'époque décrite comme les territoires perdus de la République, un livre qui a 20 ans maintenant. C'est assez vertigineux de savoir que ça a déjà 20 ans cet écrit. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que vous avez analysé cette semaine précisément, Mohamed Sifaoui? Est-ce que d'abord vous avez eu peur?
D'abord, je n'analyse pas par petits segments historiques la situation de l'islam politique en France et dans le monde. Je l'analyse depuis 35 ans. Mmh. Ce qui s'est passé cette semaine est dans une sorte de
continuum.
Cohérence mmh. et continuum idéologique que j'observe pour ma part depuis la fin des années 80.
Sauf que là, ce sont des enfants de 13 ans, 15 ans, c'est très jeune aussi.
Oui, enfin, mais désolé d'être un peu rabat-joie, pour moi, ce n'est pas nouveau. Vous savez, j'ai commencé ma carrière en Algérie. Il est dommage que la société française, et notamment ses élites, n'aient pas regardé de très près ce qui s'y était passé
dans les années 90.
Durant les années 90. Mmh. On a considéré que c'était un conflit entre musulmans et que de ce point de vue, les Européens, les Occidentaux n'avaient absolument rien à y voir. Et quand il était question de prendre parti, il y a eu certaines ambiguïtés. Je vous rappelle que tout ce que nous avons vécu en France et tout ce qui a été vécu, y compris récemment en Israël, s'est déroulé en Algérie, des massacres de villageois, l'assassinat de religieux. Les premiers catholiques qui ont été tués en Algérie, c'était en décembre 1994. Quatre prêtres catholiques, trois Français et un Belge. Quelques mois plus tard, en mars 1996, nous avons eu le drame des moines de Tibérine. Ensuite, en août de la même année, en 1996, on a eu l'assassinat de Monseigneur Claverie.
Donc c'était une opération commandée déjà, une organisation, et c'est bien de le rappeler.
J'essaye de vous donner, pardon, une perspective. C'est-à-dire que moi, à partir de cette expérience, j'ai eu l'occasion de voyager très loin, d'aller au Pakistan, en Afghanistan, de faire des enquêtes de terrain. Et ce que j'ai essayé d'apporter très modestement comme proposition, c'est d'allier à la fois une connaissance et une formation universitaire empirique, donc sur les textes islamistes, sur le corpus islamiste, et faire joindre ça à ce que je pouvais constater, comme je le disais, de façon empirique sur le terrain, en Algérie, au Pakistan, en Afghanistan, au Yémen, et ensuite dans les quartiers en France, mais aussi en Grande-Bretagne, en Belgique, et j'en passe. Donc voilà, en réalité, pourquoi je ne suis pas surpris.
Philippe Capel, est-ce que vous avez eu peur cette semaine? C'est un peu la même question que je pose à vous. Est-ce que, comme vous, Mohamed Sifaoui le dit, il n'y a rien de nouveau? Ou est-ce qu'il y a quand même un élément nouveau, en l'occurrence la jeunesse des personnages?
Je suis d'accord avec Mohamed Sifaoui pour considérer que la situation doit être appréciée sur des trajectoires longues. Mais ceci n'interdit pas, et c'est peut-être un différent avec vous, de décrypter une nouveauté dans ce qui se passe cette semaine. Trajectoire longue, ça veut dire qu'on a affaire en réalité à trois types de rapports dans l'islam aux politiques. Il y a l'islam de grand-papa, qui lorsqu'il arrive dans un pays, sait qu'il doit se soumettre aux lois du pays auquel il est accueilli.
Donc c'est l'assimilation.
Ce sont les musulmans des années 60, jusqu'à la deuxième génération. Il y a un islam qui est très spirituel, qui considère que privément je n'ai pas à revendiquer la structuration de l'espace politique. Il revendique une aspiration pour les plus savants, l'école de Merkaba ou le soufi, etc. Et qui vivent 5 prières par jour de façon privée et entendent s'en tenir à cela. Et s'insère assez bien dans la vie politique. J'ai appris il y a quelques jours que vous savez que dans l'armée française, actuellement, alors nous parlons, il y a 20% de musulmans professionnels dans l'armée française.
Exact.
Dans le Rhin, c'est ce qui n'est pas rien, et qui sont tout à fait bien insérés, qui ne posent pas de problème. Et ils sont très éloignés du 0,5 degré de la pensée wokiste. Hein. Ce sont des gens qui sont tout à fait à l'aise avec la référence française. Et puis, il y a effectivement un troisième islam qui a un rapport aux politiques. Alors, on a du mal à le qualifier. Vous avez dit islam radical, on parle d'islam politique. Moi, je parle d'islam totalitaire.
Totalitaire.
Totalitaire, parce que précisément c'est la symétrie, l'antithétique des deux autres, si vous voulez précisément. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'un islam totalitaire ? C'est celui qui revendique à partir du texte religieux la structuration de l'ensemble de l'espace politique sans altérité éthique, puisqu'il y a la loi qui vient du ciel, l'homme doit suivre, quel qu'il soit, cette loi, quel que soit le territoire. Du même coup, l'islam totalitaire, eh bien, il est conséquent avec lui-même, il n'est pas séparatiste, il est conquérant. Et donc, on use d'euphémisme aujourd'hui pour éviter de nommer le danger qui est représenté, souvent par des gens qui sont d'ailleurs incultes, qui sont parfois absolument pas formés. Certains le sont à l'extérieur, sont manipulateurs. Mais la plupart de ce jeune Afghan qui demande à Bordeaux... c'est un analphabète, mais simplement il a lu sur Internet qu'on doit tuer le mécréant.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on a des textes religieux à qui on fait dire... pas n'importe quoi, mais il y a plusieurs lectures des textes religieux, et en l'occurrence des textes coraniques, et après, il y a soit les imams qui prêchent un peu ce qu'ils veulent, et il y a eu différents exemples ces dernières semaines, ces derniers mois en France, notamment l'imam Majoubi qui a été renvoyé en Tunisie et qui, jusqu'à nouvel ordre, ne reviendra pas en France, et puis Mohamed Sefaoui, il y a les réseaux sociaux, les fameux réseaux sociaux.
Il y a effectivement un certain nombre de facteurs qui ont joué ou qui continuent de jouer un rôle amplificateur. Et en vérité, nous ne sommes pas en désaccord. Je suis totalement en accord avec ce que vous dites. C'est-à-dire que nous devons effectivement analyser
le
continuum.
Parce que je n'ai pas terminé.
Oui,
vous terminerez dans un instant.
Nous devons continuer, nous devons analyser ce phénomène. Oui, oui. Et effectivement, c'est un totalitarisme. Et quand on le dit, ce n'est pas un abus de langage, ce n'est pas pour être dans l'excès. C'est véritablement l'approche scientifique, selon les critères que l'on apprend dans les instituts de sciences politiques, qui nous enseigne de dire, ou qui nous incite à dire, que l'islam politique, l'islamisme, comme on l'appelle communément, est un totalitarisme. Ce n'est pas la peine de rentrer, ça serait compliqué dans les débats, je dirais, trop savants, mais... c'est un totalitarisme, il n'y a pas de discussion. Partant de là, effectivement, la question qui se pose au-delà des réseaux sociaux, c'est aujourd'hui une interrogation légitime, c'est que nous avons une population qui veut comprendre. Et hier, sans trahir une discussion que nous avons eue au téléphone avec Pierre de Villeneuve, on a commencé à discuter un petit peu parce qu'il voulait avoir mon avis. Ce que j'ai répondu, et je vais le dire publiquement, nous sommes dans un pays où l'élite est incapable de résoudre ce type de phénomène parce que nous avons tout simplement un effondrement de la pensée stratégique. Pas seulement sur la question de l'islam politique, surtout. Nous avons une élite qui n'est pas au niveau. Il faut le dire.
Quand vous dites l'élite, c'est pas que l'exécutif.
L'élite politique, médiatique, l'élite intellectuelle, l'élite universitaire. L'islam politique, vous savez, il n'y a pas un traitement de droite ou un traitement de gauche. Il n'y a pas un traitement d'extrême droite et un traitement d'extrême gauche. Nous sommes là d'accord parce que nous agissons comme deux praticiens. Vous m'auriez mis n'importe qui en face, nous aurions polémiqué. C'est ça la différence. La différence, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays de la petite phrase,
Je vous ai pas mis un polémiste parce qu'ici, à Europe 1, on dit la vérité. Donc,
non, mais on essaye surtout d'être constructif.
Et on fait de la pédagogie, on essaie d'expliquer aux gens ce qui se passe réellement.
Voilà. De répondre à l'attente légitime de la société qui veut comprendre des phénomènes complexes. Nous devons lui dire, et je terminerai juste par ça, effectivement, il y a plusieurs niveaux. Il y a les musulmans, il y a des musulmans qui eux-mêmes souffrent de l'islam politique, c'est-à-dire des gens qui sont croyants et pratiquants, mais qui ne représentent absolument aucun danger pour personne. Il y a ceux qui sont dans une approche conquérante. Et il y a effectivement ceux, alors les salafistes...
Et les premiers sont les victimes des seconds.
Tout le monde est victime de l'islamisme. Pas seulement.
Accessoirement aussi, ceux qui ont un culte, j'allais dire,
peut-être
modéré.
On aura l'occasion de l'exprimer. Il y a 5 grands chapitres désigné comme cible dans la littérature d'islam politique. Si vous voulez, je vous en parlerai après pour ne pas monopoliser la parole. Mais toujours est-il, c'est que nous avons effectivement un totalitarisme qui vise indistinctement un peu tout le monde.
Je vais aller un petit peu plus loin parce que je revendique pour ma part de pouvoir déchiffrer une nouveauté dans ce qui se passe, dans la mesure où nous voyons à travers cette semaine, symboliquement, une importation d'un conflit qui est déjà présent dans les pays musulmans, mais qui arrive en Europe, à la faveur de l'espace démocratique. Pourquoi ? Parce que des musulmans que vous avez qualifiés de modérés, en tout cas que j'appelle pour moi spirituels, qui acceptent les lois de la République, se sentent une autorité nouvelle dans l'espace démocratique d'expression. Et donc, donc qu'est-ce qui se passe-t-il en ce moment ? Il se passe l'importation d'un conflit déjà ancien, mais qui trouve désormais en France un espace d'expression. Et je pense que ce conflit va s'élargir, va se prononcer dans les mois et les années qui viennent. Parce que je considère que les musulmans qui ne relèvent pas de cet islamisme totalitaire vont demander la parole. Et il faut absolument souhaiter qu'il en soit ainsi. Alors,
Quand il y a eu le 7 octobre, on s'est quand même beaucoup posé la question, que faisaient les musulmans modérés à ne pas réagir à la barbarie perpétrée par le Hamas, qui, en l'occurrence, je parle sous votre contrôle, Mohamed Sifaoui, est un mouvement terroriste qui a lui-même une lecture de certains textes en disant, ben voilà, on nous demande de faire ceci en nous demandant de tuer les mécréants, de tuer tout ce qui n'est pas en rapport avec notre idéologie. Pourquoi est-ce que les musulmans modérés alors on sait qu'il n'y a pas de clergé pour les musulmans, donc pourquoi il n'y a pas eu une marche dans Paris ou dans plusieurs villes de France en disant nous ne nous revendiquons pas de ça?
Parce que si vous voulez, il y a une sorte d'injonction contradictoire. Bon, ça vous a pas échappé, je suis d'origine algérienne, je m'appelle Mohamed Sifaoui, dans l'esprit de certains je serai de fait musulman. En fait, il a fallu que je dise que j'ai un rapport à cette religion et aux autres, assez détaché pour que les gens comprennent tout simplement que musulman chez moi c'était pas un métier, que même si j'étais spécialiste des mouvements islamistes, c'était pas ma foi, et que lorsque je vais manifester, je ne souhaiterais pas qu'on considère que je manifeste est-ce qualité religieuse ou prétendument religieuse, mais en tant que citoyen. Et donc l'injonction contradictoire, si vous voulez, c'est que nous sommes dans un pays laïque, effectivement, une république où l'on demande à juste titre aux gens de s'intégrer, voire de s'assimiler. Il se trouve que l'assimilation est de fait une invisibilisation d'un point de vue identitaire, puisque nous appartiennent
à ce moment-là. On renonce à certaines choses.
Voilà. Alors, quand les gens vont manifester sans, je dirais, et à juste titre, brandir un slogan en disant « les musulmans modérés, démocrates, qui aiment la République sont là ». Enfin, ça serait ridicule. Moi, j'ai manifesté aux côtés de mes amis et aux côtés de plusieurs personnes qui étaient là.
Mais vous ne répondez pas à ma question. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu...
Je suis en train de répondre.
Mais bon, ça... Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu un mouvement général ?
Le mouvement général n'aura jamais lieu.
Pourquoi ?
Parce que tout simplement, nous ne sommes pas en train de voir la tangente qui est en train de prendre, notamment dans les quartiers les plus compliqués, la pensée anti-républicaine qui est en train de s'installer comme une norme, soit par la conviction,
donc
soit par la pression.
Donc ça veut dire que les musulmans modérés acceptent ce que disent l'islam radical, ou est-ce qu'ils ont peur des représailles de l'islam radical ?
Je vais essayer d'être plus clair. Pour exprimer la pensée qui est la mienne, ça fait 21 ans que je suis sous protection policière. Ça n'a gêné personne. On considère que c'est mon problème, que ce n'est pas le problème de la société.
Enfin, on vous a quand même mis une protection policière. Donc
oui, mais c'est l'État.
Oui.
Mais si vous voulez, la société aujourd'hui, est-ce que la société demain va s'émouvoir du sort qui va être celui de la personne, de la femme ou de l'homme qui habite dans un quartier enclavé, dans un ghetto ethno-religieux qu'on a laissé se constituer et auquel on va dire, bon, manifeste-toi, mais après, passez-moi l'expression, démerde-toi. C'est-à-dire que on ne peut pas exiger des gens s'exprimer librement si eux-mêmes ne sont pas dans un contexte de liberté. Regardez les gens qui s'expriment généralement hantent la formation qu'il faut ont l'éducation qu'il faut et ont le milieu social qu'il faut. C'est-à-dire, ils peuvent se permettre de s'exprimer parce qu'ils n'habitent pas un ghetto, parce qu'ils ne sont pas entourés de voyous, parce qu'ils peuvent peut-être se permettre d'aller se cacher quelque part, etc.
Philippe Capel.
Oui, si je peux dire quelque chose. Je pense que se pose aujourd'hui à l'islam, plus que jamais, la question de savoir jusqu'où il faut remonter pour rendre compte de ce conflit interne à l'islam. Faut-il remonter simplement à des considérations sociologiques, politiques, ou est-ce qu'il faut interroger aussi le corpus de référence, les hadiths, le Coran? Vous savez comme moi, car vous êtes savant sur ce sujet, que le Coran comporte des contradictions internes, objectives, que les imams assument totalement, par exemple la sourate 2-256, point de contrainte en matière religieuse, mais en même temps, vous avez en 1996 le Conseil des ministres arabes de justice qui confirme dans le code pénal qu'il faut tuer les apostats. Donc si vous voulez, on a là des contradictions objectives. Donc la question que je pose, mais d'un point de vue scientifique, hein, je veux dire, jusqu'où faut-il remonter pour rendre compte de ce conflit qui, à mon avis, est structurel, qui n'est pas simplement anecdotique ou accidentel. Et donc, c'est aux musulmans de répondre à cette question-là. C'est pas
Et je vais essayer de vous répondre. C'est ce que j'essaie de faire à mon modeste niveau. Je suis partisan de renverser la table. Moi, je ne suis pas partisan d'un compromis. Moi, je ne discute pas avec les totalitaires. Parce que si on part du principe que c'est un totalitarisme, et c'est mon point de vue depuis au moins 20 ans, je l'ai écrit, je l'ai rappelé, je l'ai dit dans des émissions télévisées, radio, etc. Aujourd'hui, si vous avez face à vous un totalitarisme, et c'est un totalitarisme, il faut un vainqueur et un vaincu. Et moi, je ne veux pas être dans la peau du vaincu. Alors, et c'est pour ça que j'ai l'attitude intellectuelle qui est la mienne. Moi, je considère qu'il n'y a absolument aucune négociation, aucune discussion, aucun Philippe compromis Capel. Possible avec
l'islam. C'est là que je rejoins la question de Pierre de Villeneuve, parce que vous avez commencé l'entretien en nous questionnant sur la peur. Mais il y a deux types de peur. Il y a la peur. Moi, j'ai connu un collègue à la Sorbonne qui enseignait la philosophie musulmane, qui m'a avoué qu'il s'était auto-censuré pendant toute sa carrière, par crainte de sa propre existence.
Alors, se passe dans les écoles aujourd'hui.
Oui, il y a la peur qui est réelle. Mais il y a autre chose, un autre phénomène très français faut surtout avoir peur de la peur. Il faut surtout pas dire qu'on a peur. Donc on va expliquer. Oh, bah, écoutez, non, c'est des raisons psychologiques. S'il a attaqué, c'est simplement parce que c'est un jeune qui est analphabète, etc. On ne veut pas avoir peur. Donc on a peur de la peur. Et ça, c'est un vrai. Dans les médias, peut-être pas celle où je me trouve en ce moment, mais dans les médias, vous avez tout un discours lénifiant. Vous savez, il y a toujours eu la peur. Puis la peur est un stimulus, vous comprenez, la peur c'est biologique, c'est pas très grave. Et que fait-on à ce moment précis? Moi je termine ma phrase, on supprime l'objet de la peur.
Vous savez, je comprends absolument ce que vous dites, je comprends les questions de notre ami Pierre de Villeneuve. Je vais vous dire une chose, c'est que depuis maintenant 25 ans que je porte cette parole en France, je ne pense pas que vous ayez en face de vous un excité ou un excessif. Et pourtant, mes pires adversaires, ça n'a pas été les islamistes. Les islamistes, ils veulent me tuer. Ça a été l'intelligentsia parisienne. Ça a été les journalistes. Ça a été les commentateurs. Ça a été les éditorialistes.
C'est ce que je suis en train de vous dire.
C'est à chaque fois la disqualification. Alors, et je ne suis pas le seul
à subir ça.
La disqualification de cette parole, c'est-à-dire qu'on accorde beaucoup plus de crédit à la parole d'un islamiste en France que la parole d'un démocrate.
Mohamed Sifaoui et Philippe Capel, il y a juste une question. On a dit les élites essayent de régler le problème avec un dogme, c'est la laïcité. La laïcité revient et l'exemple, je veux dire, flagrant, ça a été cette vidéo filmée par cet intérimaire qui s'est pointé dans une boutique Géox à Strasbourg et qui a dit « Mais si, monsieur, j'ai le droit parce que c'est liberté, égalité, fraternité ». D'abord, est-ce qu'on mélange pas tout, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que la laïcité peut régler les problèmes? En très peu de temps, malheureusement.
C'est souvent le pot de terre contre le pot de fer dans cette situation. Et vous avez raison, l'islam totalitaire, c'est le pot de fer, il est dangereux. Bon, vous avez des manipulations, il faudrait regarder de près si cette jeune fille a été manipulée ou pas par des courants extérieurs. C'est un autre sujet, je n'ai pas l'information à ce sujet. Mais en réalité, ce qui se passe aujourd'hui tient à ce que nous ne voulons pas entend ce que la laïcité a de meilleur, je rappelle quand même qu'elle est liée à l'Occident. On aime, on n'aime pas. Je regrette pour ma part que les anciens musulmans, enfin les vieux musulmans, n'aient pas plus d'autorité pour faire valoir justement un principe qui est très présent dans le Moyen-Orient, le respect de la loi de pays dans lequel on arrive. Bon, aujourd'hui, non, on voit bien que bon, tout ça, on a perdu la partie. Donc je ne sais pas très bien comment je... Alors, je rappelle simplement que la laïcité, puisque vous m'interrogez, moi j'ai écrit deux bouquins là-dessus, la laïcité, c'est un terrain qui promeut la séparation des institutions religieuses et politiques. La laïcité n'introduit pas une séparation entre la religion et la société. Donc, aux sociétés de gérer le rapport. Mais la laïcité s'occupe des institutions. Et donc, je regrette que certains hommes politiques, et je vous rejoins tout à fait, ne sachent absolument pas de quoi on parle. Quand j'entends un homme politique dire « l'islam politique n'est pas une religion », ça pose un vrai problème, comme s'il avait passé la veille un doctorat de théologie alors qu'il n'a jamais étudié l'histoire comparée des religions. Donc, je ne veux pas faire de mauvais humour, mais enfin, c'est quand même ça la situation. Donc, la laïcité est un principe de neutralité. Mais attention, ce n'est pas une neutralité métaphysique. C'est une neutralité qui repose sur la distinction des institutions. Ensuite, dans la société, en tant que catholique, je regrette que même dans la société, nous n'ayons pas toujours le droit de parler.
En 10 secondes, malheureusement, même si oui. La laïcité.
La laïcité, moi j'y crois profondément, pas en tant que dogme ni en tant que religion, mais en tant que rempart dans certaines situations. Mais là où je suis d'accord avec vous, on ne peut pas tout mettre sur le dos de la laïcité. Elle ne peut pas être l'alpha et l'oméga de notre lutte légitime et nécessaire contre l'islamisme. L'islamisme, il faut mobiliser des citoyennes et des citoyens afin tout simplement que les résistances s'opèrent en puisant ces réponses dans le corpus républicain, dans le corpus démocratique, pas dans autre chose. Certaines dérives justement que l'on craint, c'est que finalement un totalitarisme fasse naître un autre totalitarisme et qui lui fasse qu'il fasse croire que ce serait une solution par rapport à...
Merci beaucoup Philippe Capel, merci Mohamed Sifaoui, vous reviendrez parce que le débat va continuer sans doute beaucoup sur cette actualité-là. Je vous le signale juste que vous retrouvez Didier Barbelivien le dimanche de 17h à 18h et donc demain, rediffusion de l'émission avec Alexis Grus qui nous a quittés dernièrement. Très bonne soirée sur Europe 1.